William de Vigelaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie chez BNP Paribas Investment Partners. On va parler avec vous de marchés et de perspectives sur ces marchés. Aujourd'hui, si on s'était vu, hein, il y a 15 jours, 3 semaines, nous étions dans une période assez favorable, notamment en Europe, très nettement. On avait eu ça aussi en fin d'année 2012. Comment vous abordez-vous cette nouvelle année dans cet environnement où on a appris encore cette semaine que la croissance, hein, la décroissance ou la récession dans la zone euro était là?
Oui, effectivement, les semaines se succèdent et la thématique dominante bouge assez rapidement. Donc après l'engouement pour les classes d'actifs risqués en début d'année, il y a eu un certain refroidissement de l'intérêt qui, je dirais, est plutôt d'ordre ponctuel. C'était lié à notamment au développement politique en Italie, en Espagne, et ce n'est pas une mise en question fondamentale du contexte. Un contexte qui reste toujours caractérisé au niveau européen par un sort de passage dans la deuxième phase d'un cycle monétaire. Ce que je veux dire par ça, c'est que la première phase, c'est qu'on injecte des liquidités, on crée un environnement monétaire favorable. La deuxième phase, les actifs risqués commencent à réagir. Et puis, on espère que dans la troisième phase, l'économie va reprendre. Alors là, comme on l'a encore vu avec les derniers chiffres, il n'y a pas encore des éléments pour croire à ce que le retournement va intervenir, même si beaucoup d'observateurs, y compris la Banque centrale européenne, croient que le second semestre sera mieux orienté.
Donc on est toujours dans ces incertitudes macroéconomiques. En même temps, on avait vu qu'aux États-Unis, très nettement, en tout cas les investisseurs, les indices étaient allés plus haut. Et on avait un vrai décalage entre finalement la performance des marchés actions américains et des marchés européens. Il y avait un vrai décalage. Donc on se disait en début 2013, forcément, l'Europe retrouvait de l'attrait. Elle avait commencé fin d'année 2012. Il y avait un peu une obligation par rapport à ce qui s'était passé aux États-Unis, qui était un peu en avance.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est un thème qui restera d'actualité pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les marchés anticipent toujours plusieurs mois à l'avance. Et on voit que les indicateurs avancés, notamment de l'OCDE, qui concernent les États-Unis, sont beaucoup mieux orientés qu'au niveau européen. Comme dans différents pays émergents, l'orientation s'améliore aussi. Par conséquent, ça devrait s'améliorer au niveau européen d'ici quelques mois. Donc là, les marchés devraient anticiper. Le deuxième facteur qui est très important, c'est que d'un point de vue valorisation relative, l'Europe est quand même très intéressant. Et là, j'utilise comme indicateur de valorisation les rapports coûts-bénéfices à long terme, le fameux Shiller qui prend les bénéfices sur les 10 dernières années, qui est un meilleur indicateur pour évaluer les perspectives boursières à moyen terme. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Et puis le dernier point, mais ça, c'est plus une thématique ponctuelle de court terme, il y a le fameux débat budgétaire aux États-Unis qui doivent reprendre. Et puis vers la fin de l'année, sans doute, le marché commencerait à être obsédé par que va faire la Fed en 2014. Donc là, je dirais qu'au niveau européen, ça devrait plutôt être un environnement où l'Europe arrive à rattraper son retard sur le plan boursier.
Du côté des marchés, on a parlé là des marchés actions, on se pose beaucoup de questions effectivement sur l'autre partie, la partie obligataire, avec des performances en 2012, mais beaucoup s'interrogent sur 2013 et justement la future action des banques centrales. Ils se disent en 2013, finalement, sur les marchés obligataires, quoi faire ? Est-ce qu'il y a effectivement là-dessus une nouvelle stratégie à adopter en 2013 ?
Ce qui est clair, bien sûr, c'est que les performances qu'on a vues en 2012 ne peuvent pas se répéter en 2013. Autrement, il faudrait vraiment un environnement économique très négatif où il faut espérer effectivement ne pas s'y retrouver. Avoir des taux longs, les marchés de référence, le trésor américain, les bonds en Europe, qui iraient encore nettement plus bas. J'insiste sur le mot nettement, c'est quand même difficile. Par ailleurs, la compression de spread qu'on a vue, elle a été très importante sur l'investment grade des entreprises. Nous avons des rendements actuellement de 2,3%. Au début d'année, on était à 2% en rendement absolu. Donc c'est Ce n'est pas une classe d'actifs qui a attiré beaucoup d'investisseurs, pour dire avec un certain euphémisme. En revanche, au niveau la dette high yield, là, on a des rendements de 5,30%, 5,3%. Donc là, il y a encore un potentiel d'effritement des spreads, et idem pour la dette émergente. Je pense que d'une manière inévitable, comme on a eu cet écrasement des spreads sur une partie du marché obligataire, les opérateurs se réorientent. C'est ça qui est derrière l'intérêt pour la périphérie européenne. C'est ça qui explique encore la baisse très récente des rendements espagnols. Mais c'est ça aussi qui explique, en certaine mesure, la redécouverte de l'investissement en bourse.
Alors justement, on a vu ces flux, hein, notamment aux États-Unis, entre les fonds obligataires et puis les fonds monétaires et effectivement aller vers la partie action. En même temps, quand on regarde au niveau global, on n'a pas encore, notamment en Europe, on voit que les investisseurs institutionnels sont pas encore très ou n'ont pas très envie encore d'acheter des actions. On les sent encore un peu rétifs à l'achat d'actions.
Oui, je pense qu'il y a deux phénomènes qui jouent. Le premier phénomène, c'est que, bon, il y a quand même, on a eu une série de faux départs, pour ainsi dire, et n'oublions pas les pertes de 2008 et même avant ça. Le deuxième facteur qui joue, c'est qu'il y a quand même bon nombre d'institutionnels qui sont face à des contraintes réglementaires ou bilancielles qui les empêchent d'investir en bourse ou d'augmenter leur position boursière, ou bien doivent le faire en allégeant le risque sur d'autres domaines. Et donc ça, c'est un jeu qui est quand même plutôt difficile et qui explique aussi pourquoi une partie du marché, une partie de la base d'investisseurs qui en fait ne peut même pas participer, même s'il y avait une volonté. En revanche, aux États-Unis, on a un autre phénomène. Là, les fonds de pension, typiquement, ils travaillent avec des normes réglementaires qui sont différentes. Ils ont également des taux de rendement qu'ils doivent réaliser qui sont très élevés. Et donc, eux, ils ont une incitation à aller plus en bourse.
Alors du côté des perspectives, hein, toujours, on a vu déjà, ça a déjà commencé en ce début d'année, avec la chute du yen, ce qu'on a appelé currency war. Ça, on se dit, alors on a vu l'effet sur l'euro, bien sûr, l'euro qui s'est apprécié de manière assez rapide, à l'inverse. On se demande entre le dollar, l'euro, le yen, si ça ne va pas perturber finalement tous ces marchés financiers, si ça continue à ce rythme-là.
Ah oui, ça perturbe. Ça perturbe. Il est évident, un investisseur européen qui serait investi internationalement depuis le début de l'année, il a à peine gagné de l'argent. Et ça, c'est lié au mouvement de l'euro, au renforcement de l'euro. Un autre facteur qui joue, c'est que la région économique du monde, qui a quand même besoin d'une devise qui s'effrite, qui s'affaiblit, justement, est confrontée un renforcement de sa devise, l'Europe en concurrence, simplement parce que c'est la région où la politique monétaire qu'on adopte est la plus stricte, est plutôt une politique ancienne école, ce qui n'est pas péjoratif, mais c'est quand même, c'est la doctrine monétaire des décennies précédentes qu'on adopte. Tandis que dans d'autres pays, les États-Unis, c'est eux qui ont commencé, les Japonais, les Britanniques, etc., et eux, ils ont une approche qui est beaucoup plus opportunistique, je dirais. Avec donc en conséquence un effritement séquentiel de leur devise. Et donc ça, clairement, ça perturbe. En même temps, je trouve que l'attention qu'on y porte est parfois un peu exagérée. Et donc, oui, currency wars, oui, il y a le côté imagination qui joue, mais bon, je pense qu'il y a effectivement le Japon qui en fait, joue le quitte double en quelque sorte. Eux, ils sont vraiment se lancer dans des expériments monétaires extrêmes. Et donc là, oui, croisons les doigts que ça marche.
Il y aura des discussions entre les différents banquiers centraux. En conclusion, peut-être donc sur l'évolution de votre allocation d'actifs en ce début d'année, les grandes lignes, comment ça va évoluer compte tenu, il y a encore des incertitudes en Europe, on en a parlé sur les questions économiques, bien sûr, questions de dette. Comment ça va évoluer pour vous?
Pour l'instant, nous sommes saupoudrés en actions. On estime que les marchés ont trop monté, qu'il y a trop d'engouement lié à l'embellie conjoncturelle américaine et qu'on sous-estime en quelque sorte l'effet de freinage qu'aura le resserrement budgétaire américain qui sera inévitable. Donc ça, c'est la situation actuelle. Il est évident que sur une correction, pour autant qu'elle soit un peu suffisante, alors là, ce serait une opportunité pour revenir sur le marché. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on voit la fin du tunnel budgétaire américain en termes de discussion, l'effort est un effort pluriannuel, mais en termes de discussion, ça c'est un facteur de soulagement pour les marchés, c'est un facteur soulagement également sur un plan conjoncturel parce que l'incertitude va quand même baisser. Donc ça pourrait être un facteur qui à ce moment-là ferait remonter l'appétit pour le risque du marché et qui pourrait également nous pousser à augmenter notre budget de risque. Je pense que c'est un environnement de marché où il faut être beaucoup plus sélectif que par le passé. C'est lié notamment au comportement des devises, on en a parlé. Mais c'est également lié au fait qu'il y a encore de belles opportunités par-ci, par-là, et notamment dans certains pays émergents. Bon, je pense la Russie, la Corée, l'Inde. N'oublions pas l'Inde où les taux d'intérêt vont encore baisser assez bien cette année.
Merci d'avoir fait le point avec
Avec
nous,
plaisir.
William de Vilter. On rappelle que vous êtes donc le directeur de la stratégie BNP Paribas Investment Partners.
Merci.